Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute du 246e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances de la Toussaint se poursuivent alors que commence novembre, mois traditionnellement riche en événements musicaux, et l'année 2023 ne déroge pas à la règle. C'est surtout à partir du début de la semaine prochaine que nous allons pouvoir retourner dans les salles avec les premiers concerts des saisons des Clés de Saint-Pierre et des Arts Renaissants, lundi et mardi, dans les deux cas à Saint-Pierre-des-Cuisines. La semaine passée a eu lieu à La Lograin un double concert que nous avions annoncé lors de notre précédent numéro, donné par l'Orchestre National du Capitole jeudi et vendredi et dirigé par le grand chef néerlandais Ton Koopman. Dans ce programme trônait en majesté le Requiem de Mozart, œuvre célèbre s'il en est, pas entendue depuis une vingtaine d'années en ce lieu. Là, l'affichet complet pour ces deux dates, nouvelle preuve de l'engouement que suscite la musique classique à Toulouse. Pour revenir sur ces soirées et vous annoncer les prochaines, je retrouve le cher et fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge.
Bonjour.
L'actualité musicale se résumait donc à un seul événement la semaine passée, ou plutôt à un double événement, puisque ce concert a été donné, je le rappelle, jeudi et vendredi à La Lograin par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Ton Koopman. Mais il y avait beaucoup d'autres protagonistes lors de ces deux soirées pour interpréter un véritable programme de gala. Je n'hésite pas à employer le terme. Serge était présent lors de la première dans une halle archi-comble, ce oui. Qui était le cas les deux soirs. Le concert a commencé avec quelle œuvre, Serge ?
Avec une œuvre de Jean-Sébastien Bach. Mais je voudrais d'abord préciser que c'était la première fois que Ton Koopman dirigeait l'Orchestre National du Capitole. Ça n'est pas la première fois qu'il venait à Toulouse. Il était déjà venu, notamment avec les ensembles de Jordi Savall. Il joue très souvent du clavecin avec Jordi Savall. Mais là, c'était la première fois qu'il dirigeait un orchestre sur instrument moderne. Lui qui est tout de même un emblème du baroquisme, en quelque sorte, hein, de l'élan baroqueux qui a débuté il y a très longtemps. Dans les années 70. Donc, c'était vraiment une grande première pour lui. Et ma foi, tout s'est magnifiquement bien passé. C'est-à-dire que lui, je l'ai entendu lui-même le dire, était absolument ravi des qualités déjà des musiciens de l'orchestre et surtout, m'a-t-il dit, de leur souplesse à s'adapter à la direction. Donc, ça s'est très bien passé. Et les musiciens eux-mêmes, à la fin du concert, l'ont applaudi, ce qui prouve que tout s'est bien passé entre eux. Donc voilà.
C'est toujours un honneur d'être dirigé par ce qu'on peut appeler, un peu une légende tout de même, la musique savante en Europe et même dans le monde.
Oui,
et puis pionnier, comme vous l'avez rappelé, du renouveau de la musique baroque dans les
avec
années 70-80.
Avec des gens 70, comme Gustave Leonhardt, Arnoncourt, il fait partie de cette grande cohorte de musiciens qui ont retrouvé, en quelque sorte, entre guillemets, les codes de la musique baroque.
Qui ont tous aujourd'hui plus ou moins 80 ans.
Hein. Et oui,
Il était temps qu'il dirige enfin l'Orchestre du Capitole.
Ah oui, donc ça a été une belle chose. Ça a eu un gros succès. Et alors donc, comme je le disais, le concert a débuté par une suite, la troisième suite pour orchestre, en ré majeur, la BWV 1068, de Jean-Sébastien Bach. Et dès le début de cette suite, on s'est rendu compte que les instruments modernes jouaient un peu comme des instruments baroques, des instruments anciens. C'est-à-dire que le vibrato des cordes était réduit à sa plus simple expression, le rubato était rare. Et en général, le rubato, c'est plutôt une manière romantique d'aborder la musique. Et puis surtout, et également, il y avait cette recherche d'une articulation différenciée des phrasés, vraiment très adaptée à l'œuvre qu'il donnait. Et donc, on a eu ce qu'à une certaine époque, on a appelé un Bach dégraissé, en ce sens. Donc, il n'était pas pesant ni romantique, absolument pas, mais très vivifiant. Avec des tempi vifs, animés, avec un jeu éclairé donc de tous les pupitres qui confèrent à l'œuvre. Alors là, c'était flagrant, une sorte de Transparence lumineuse, c'était vraiment excellent. Il faut d'abord saluer la beauté éclatante du trio de trompettes. Il y a tout de même pour les trompettes une partition très périlleuse et très difficile. Et ils ont joué ça magnifiquement. Ce sont les trompettistes habituels que l'on connaît de l'orchestre, avec la rondeur des vents et surtout cette articulation donc baroque. Et alors, le célébrissime air, l'aria ou air, qui est vraiment, peut-être le passage le plus utilisé, qui a été le plus joué et si souvent romantisé. Alors là, rien à voir, évidemment. C'était une espèce de trame de dentelle, à la fois riche et très subtile, très belle. Ça a été vraiment un grand moment qui a été très applaudi que cette suite numéro 3 en ré majeur. Ré majeur, c'est la tonalité des trompettes, avec trompette et timbales.
Alors, même s'il est très connu, même si je l'ai diffusé la semaine dernière, je pense que personne ne verra d'inconvénient à écouter une nouvelle fois ce célèbre aria de la suite pour orchestre numéro 3, BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, et c'est une version dirigée par Ton Koopman. le fameux aria de la suite pour orchestre numéro 3 BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, ici dans une version dirigée par Tom Koopman. C'était donc la première des trois œuvres au programme des concerts donnés par l'Orchestre du Capitole jeudi et vendredi dernier à la Halle aux Grains, sous la direction du même Tom Koopman. La deuxième a été l'occasion de retrouver un musicien qu'on connaît bien à Toulouse et à Mélomanie. Il était d'ailleurs notre invité la semaine passée, le mandoliniste Julien Martineau. Quelle était cette pièce et avez-vous aimé l'interprétation qu'en ont faite le mandoliniste toulousain et les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, Serge?
Oui, je dirais oui, oui. Mais bon, il faut préciser qu'il s'agissait du concerto pour mandoline et orchestre en sol majeur de Johann Nepomuk Hummel. Ça n'est pas un nom si courant dans les programmes de concert. On le connaît beaucoup pour des œuvres pour piano, en particulier, mais...
Et pour son fameux concerto pour trompette.
Ah, le concerto pour trompette, c'est vraiment l'œuvre la plus célèbre de Hummel, évidemment. Et là, c'était quand même une rareté, donc, qui a été révélée ce soir, vraiment, par Julien Martineau, qui est un peu incontournable pour ce type d'exécution. Alors, je voudrais préciser quand même que Julien Martineau, qui est professeur au Conservatoire de Toulouse, est également, il a été nommé directeur honoraire d'une organisation internationale prestigieuse qui s'appelle The Classical Mandolin Society of America, excusez du peu, hein. Donc il est directeur honoraire de cette institution, ce qui est tout de même quelque chose.
Oui, je l'ignorais.
Bah, c'est un grand musicien.
Et humble, parce qu'il ne s'en vante pas, hein. Franchement,
pas du
j'étais
tout,
pas au courant
du tout.
Hein.
Pas du tout. Et là, alors, dès les premières notes, il y a une petite introduction orchestrale, et dès les premières notes du premier mouvement, qui est indiqué Allegro moderato y grazioso, ça c'est très important, là, vraiment, il déploie un jeu d'une fluidité et d'un raffinement extrême. C'était vraiment très très beau, avec un bel équilibre avec l'orchestre, grâce aussi à la direction de Tom Koopman, évidemment. C'est vraiment un profond musicien, grand musicien autant que grand virtuose. Hein. Vraiment, c'était impressionnant. Il a donc joué les trois mouvements avec beaucoup d'expression, mais sans en rajouter, ça restait très riche. Et puis, il a conclu l'œuvre par une cadence. Alors, je me suis demandé, je ne reconnaissais pas cette cadence. Et je lui ai posé la question. Eh bien, sa cadence, c'est lui-même qui l'a composée.
Oui.
Comme ça se faisait à l'époque, d'ailleurs. Hein. C'était aux interprètes à prouver qu'ils étaient capables d'improviser. Alors là, il ne l'a pas vraiment improvisé. Je suis sûr qu'il l'a beaucoup travaillé.
Oui, bien sûr, bah, d'autant plus qu'il vient d'enregistrer un CD là, sous le label Neil.
Exactement.
Où il y a le concerto
avec
pour mandoline de Hummel. Accompagné par les musiciens de l'Orchestre du Capitole.
Oui, oui,
il
exactement.
Il était vraiment terrain de connaissance à tous les niveaux.
Ah, oui, 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 exactement. Et donc, cette cadence donnait l'impression qu'il y avait deux mandolines sur scène. C'était vraiment impressionnant. Il a été très applaudi, évidemment, à plusieurs reprises, au point que, il est revenu pour un bis, mais un bis avec l'orchestre, accompagné donc par l'orchestre et Tom Koopman. Et il s'agissait là... Alors, d'une œuvre beaucoup plus connue que le concerto de Hummel, il s'agissait du Largo, du concerto pour mandoline en do majeur de Vivaldi, une espèce de prolongation de rêve, puisque c'était le mouvement lent de ce fameux concerto de Vivaldi que l'on entend beaucoup plus souvent que celui de Hummel. Ça a été un très beau moment que ce concerto qui a été révélé à de nombreux spectateurs, j'en suis sûr.
Sachant que c'est tout de même une œuvre de référence pour les mandolinistes.
Pour la mandoline, ah oui,
vraiment.
Oui, absolument.
Et d'autre part, il faut aussi qu'on rappelle que Hummel était un élève de Mozart.
N'est-ce
dont
pas
nous allons parler dans quelques instants. Donc c'était
et
tout
oui.
à fait logique de faire le pont
oui.
entre Bach et Mozart
oui, oui.
par Hummel.
Voilà, c'est parfait. C'est une belle idée.
Nous allons réécouter le concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel, joué par Julien Martineau et les musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Voici un extrait du CD dont je viens de parler, le CD « Au sole mio » paru sous le label Naïve. Il s'agit du deuxième mouvement « Andante con variazioni ».
Thank you.
le deuxième mouvement Andante con Variazioni du concerto pour mandoline de Johann Nepomuk Hummel, interprété par Julien Martino, les musiciens de l'orchestre du Capitole, extrait du CD Au Sole Mio qu'ils ont donc joué jeudi et vendredi à la Halle au Grain. Et puis donc la troisième œuvre au programme de ces soirées, le grand morceau de bravoure, c'était le célèbre Requiem de Mozart, pour lequel intervenait le chœur de l'Opéra National du Capitole, préparé par Gabriel Bourgoin, notre autre invité de la semaine dernière. Alors Serge, est-ce que ça a été le beau et grand moment que tout le monde attendait?
Oui, certainement, mais très différent des versions habituelles. Vraiment, Anton Kaupmann a une personnalité très attachante et très originale. Alors, il faut quand même rappeler que cette fameuse messe de Requiem de Mozart en fin de vie, c'est une œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a une légende à afficher. Bon, on dit que Mozart avait pensé que c'était pour lui-même qu'il composait ce Requiem, alors que c'était une commande d'un certain von Walsegg qui, en fait, ne s'était pas présenté, qui voulait faire croire que c'était lui qui avait composé cette messe pour l'honneur de sa femme qui était récemment disparue. Donc c'est une œuvre qui a une histoire, une histoire vraiment importante et qui a été laissée donc inachevée par Mozart. Il y a eu des tas de tentatives d'achèvement de cette œuvre et là, Anton Kaupmann, je voudrais préciser que dans le programme de salle, il y avait une intéressante interview, un entretien très bien fait de Anton Kaupmann et c'est dans cet entretien qu'il signale qu'il a préféré la version complétée par l'élève de Mozart, Franz Xaver Süssmayr. Bon, Süssmayr était un élève. Et paradoxalement que Mozart considérait un peu comme un idiot. Il l'a écrit même à son épouse. Donc c'est très bizarre. Mais Süssmayr a fait du bon travail en achevant, en reprenant des thèmes d'ailleurs de Mozart pour compléter tous les mouvements de ce magnifique Requiem. Alors, la conception de Anton Kaupmann, elle se distingue vraiment de toutes les versions romantisées comme on pouvait s'y attendre, évidemment. Il prend des tempi assez vifs, assez animés, et ces tempi découlent d'un paradoxe qu'il expose aussi dans cet entretien. Voilà ce qu'il dit, c'est une œuvre porteuse de vie. Ce qui est paradoxal pour un Requiem, messe des morts tout de même. Eh bien lui, non, il considère que c'est une œuvre vitale. Et c'est ainsi qu'il enchaîne donc les épisodes très contrastés. Dès l'introitus et le Kyrie, alors la musique avance avec une ardeur. C'est ça qui frappe, c'est la ferveur, l'ardeur qu'il met dans cette direction. Un épisode très spectaculaire est celui du Dies Irae, qui, pour une fois, résonne vraiment comme le jour de colère que ça représente. Oui. Donc, Dies Irae, c'est exactement ça. Il y a également un autre passage très caractéristique de cette œuvre, c'est le beau solo de trombone qui accompagne le tuba mirum, chanté par la basse. Très beau, avec des introductions orchestrales, chaque fois particulièrement soignées. Très très beau. Il faut féliciter également le chœur du Capitole, de l'Opéra National du Capitole, Gabriel Bourgoin qui le dirigeait, qui a vraiment fait preuve d'une grande discipline, d'une tension très soutenue. Ça ne se relâche jamais. Il y avait également donc quatre solistes chanteurs, avec la soprano Elisabeth Breuer, la mezzo-soprano Lara Morga, le ténor Kieran White qui remplaçait un ténor qui était prévu.
Patrick Graal était initialement prévu.
C'était un autre ténor. Et le baryton Benjamin Apple. Et on a eu l'impression qu'ils ont peut-être eu un peu de mal à entrer dans l'œuvre au début, mais ça s'est amélioré vraiment au fur et à mesure de l'exécution, et ça a progressé de manière très cohérente et avec beaucoup de vitalité là aussi. Donc ça a été un accueil enthousiaste, sans doute.
C'est attendu depuis des mois, ce Requiem de Mozart, parce que, comme je l'ai dit, il y a au moins 20 ans, je pense que ça n'avait pas été donné à la Halle au Grain, avec l'Orchestre du Capitole, en tout cas.
Et là, donc, l'accueil a été donc très, très vibrant. Et paradoxalement, on a vu Anton Kaupmann revenir, s'adresser à ses musiciens, et ils ont donné un bis. De nouveau, extrait du Requiem, ils ont repris le fameux Dies Irae d'une ardeur extrême encore décuplée pour ce bis. C'était tout à fait impressionnant donc que d'entendre encore un extrait de ce Requiem.
Ah oui, un bis pour le Requiem de Mozart.
Oui.
Moi, je n'ai jamais entendu ça. Alors vous, peut-être, qui allez à des concerts depuis plus longtemps que moi, mais ça non plus, ce n'était pas commun.
Non.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter encore une fois un extrait du Requiem de Mozart, l'Introitus, dans une version du Monteverdi Choir dirigé par John Eliot Gardiner. L'Introitus du Requiem de Mozart dans une version du Monteverdi Choir, dirigée par John Elliott Gardiner. Pour terminer cette première partie d'émission, on se retrouve dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Nous voici de retour avec Serge Chosy pour l'agenda de la semaine à venir, plus précisément des 7 jours à venir. Concernant la semaine en cours, peu de concerts d'ici dimanche et la fin des vacances scolaires. Les affaires vont vraiment reprendre à partir du lundi 6 novembre, lors d'une semaine qui, elle, va être très chargée. Le lundi 6, donc, à Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h, premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, avec un programme très original, ma foi, intitulé « Quintettes en miroir », Serge.
Et oui, puisque en fait le programme de ce concert est basé sur les reflets ou les correspondances entre deux des plus célèbres quintettes pour instruments avant et piano, celui de Mozart et celui de Beethoven, qui sont d'ailleurs très proches, très liés, hein, comme on le verra. Et donc, c'est vraiment un programme intéressant et imaginatif. Il n'y a pas d'ailleurs que ces deux quintettes, il y a également quelques œuvres de jeunesse de Beethoven qui entourent ces deux grands chefs-d'œuvre, donnés avec des musiciens que l'on connaît bien, hein, notamment Louis Seguin pour le hautbois, Florian Tardy pour la clarinette, Estelle Richard pour le basson, François Lugue à la fois pour le cor et le piano, on va le voir.
On va en parler, ça. Oui.
Et Jean-Sébastien Borsarello au piano. Lui qui est le timbalier officiel de l'Orchestre National du Capitole. Et donc, voilà, ce sont des musiciens bien connus, excellents, que l'on connaît vraiment.
Bah, on les voit à chaque concert de l'Orchestre du Capitole, hein, puisque tous en sont titulaires.
Ah, oui.
Sauf que là, bon, la particularité, c'est qu'effectivement, on va avoir Jean-Sébastien Borsarello au piano, puisque son premier instrument, c'est le piano. C'est un peu plus tard qu'il passera aux percussions. Et aujourd'hui, il est le timbalier solo de l'orchestre. Et puis donc, François Lugue, je n'ai connu qu'au corps. Et je découvre qu'apparemment, lui aussi, il a dû sans doute commencer par le piano.
Oui.
Bon, c'est pas rare que des musiciens commencent par un instrument, puis après bifurquent vers un autre.
Oui, exactement.
Et donc, ils vont jouer avec Jean-Sébastien Borsarello cette sonate en ré majeur, opus 6, pour piano à quatre mains de Ludwig van Beethoven.
Voilà, une œuvre de grande jeunesse. Oui, absolument. Et c'est par cette sonate que va débuter le concert.
Oui.
Donc, c'est intéressant, amusant. On va découvrir, pour la plupart d'entre nous, cette œuvre très peu jouée, rarement jouée. Et donc, autre œuvre, il y aura un duo pour clarinette et basson. Alors là également, une œuvre de jeunesse, puisque c'était en fait trois duos que Beethoven a composés, et il est noté dans le programme extrait. Donc on aura pas l'ensemble des trois, probablement. Alors c'est une œuvre qui a comme référence WOO, Werk ohne Opus, ça veut dire œuvre sans opus, 27, elle a quand même un numéro, bien qu'elle n'a pas d'opus. Voilà les œuvres qui entourent les deux quintettes. Alors, le premier quintette qu'on entendra, c'est celui de Mozart, dont le quintette pour piano et vent, en mi bémol majeur, qui est un Küchel 452, donc de la maturité, donc de Mozart, et qui est vraiment une œuvre magnifique. Ce quintette de Mozart est écrit pour piano, hautbois, clarinette en si bémol, cor en mi bémol et basson. Alors c'est une œuvre qui importait beaucoup à Mozart, puisqu'il a écrit à son père à son propos « Moi-même, je le tiens pour ce que j'ai encore fait de mieux dans ma vie ». Ce qui, quand même, de la part de Mozart...
Ça classe l'œuvre en question.
Ah oui, tout de même. Donc. Alors, c'est un effectif hors du commun, mais qui est en fait un effectif que Mozart avait déjà pratiqué pour composer 10 divertimenti qui faisaient appel donc aux mêmes instruments, chacun étant doublé. Donc, il y avait une dizaine de musiciens pour exécuter.
On retrouve aussi tout l'amour des instruments avant de Mozart.
Ouais, de Mozart. La grande partita, qui est une œuvre géniale pour instruments avant, de Mozart, est une pure merveille. Donc voilà ce quintette de Mozart que l'on entendra tout d'abord. Et ensuite, à la fin du concert, ce sera vraiment le quintette pour exactement le même effectif. Et en mi bémol majeur, même tonalité de Beethoven, qui a donc copié un peu...
Bah, d'où le titre du concert, Quintettes en miroir.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Et c'est cette œuvre-là, donc, qui est en trois grands mouvements et qui reproduit les formes de Mozart comme le note un grand critique qui s'appelle Patrick Tchernovitch, dans le monde de la musique, et c'est ce qu'il a dit, il reproduit les formes de Mozart, et c'est tout à fait juste. Donc il y a vraiment un lien de parenté très étroit entre ces deux quintettes, et c'est une excellente idée de les avoir mis au même programme, ces deux partitions.
Et concernant Beethoven, c'est aussi une œuvre de jeunesse, puisque c'est opus 16.
Opus 16, oui. Mais il n'y a que des œuvres de jeunesse de
et
Beethoven.
Oui, c'est ça aussi
au cours de ce concert.
Qui est intéressant, c'est-à-dire à l'époque où il était encore sous l'influence relative, certes, mais tout de même, de Mozart et Haydn.
Et oui. Peut-être surtout de Haydn dans cette œuvre.
Voici cette pièce de jeunesse de Beethoven, son quintette pour pianos et vent en mi bémol majeur opus 16, dont nous allons écouter le troisième mouvement, Rondo Allegro ma non troppo. Le troisième mouvement, Rondo Allegro ma non troppo, du quintet pour pianos et vent en mi bémol majeur opus 16 de Beethoven, l'une des quatre pièces au programme du concert que donnent les Clés de Saint-Pierre, lundi 6 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le lendemain, au même endroit, autre concert inaugural d'une saison très prestigieuse à Toulouse, celui du duo Lucienne Renaud-Davary-Félicien Bru pour ouvrir la saison des Arts Renaissants, mardi 7 novembre à 20h. Nous l'avions annoncé il y a deux semaines, mais un petit rappel s'impose. C'est la première venue à Toulouse de la jeune trompettiste Lucienne Renaud-Davary et elle vient donc pour présenter ce peu courant duo trompette-accordéon avec Félicien Bru, un musicien en revanche qu'on connaît déjà, Serge.
Oui, absolument. Alors, Lucienne Renaud-Davary, elle a tout de même été sacrée révélation aux Victoires de la musique 2016. Donc, c'est vraiment...
Elle était toute jeunette à l'époque.
Jeune, oui. C'est une grande musicienne, hein, vraiment. Par contre, Félicien Bru, oui, alors lui, il est devenu, en quelques années, en quelque sorte le représentant de l'accordéon dans la nouvelle génération de musiciens classiques. Hein. Il joue beaucoup avec des programmes de musique très classique, hein, et pas seulement du musette. Hein,
alors donc, qu'il vient du musette.
Hein. Alors qu'il en vient, oui, exactement.
Il vient du musette, des musiques traditionnelles, oui, le oui. Jazz, il est passé par le jazz, et puis donc il est arrivé.
Exactement.
Il a longtemps enseigné en conservatoire.
Oui, oui, oui.
Et en fait, sa carrière a décollé bien après la trentaine. Mmh. Et maintenant, effectivement, c'est un peu l'accordéoniste avec qui tout le monde veut jouer.
Oui.
Donc, dont Lucienne Renaud-Navary, mais aussi notre ami Thibaut Garcia, qui oui, bah, s'était produit absolument. L'an dernier au même endroit avec lui.
Exactement.
Dans le cadre de la saison des Arts Renaissants.
Oui, oui. Et donc, finalement, il suscite en même temps la création d'un nouveau répertoire en musique de chambre avec de nouvelles, j'allais dire, orchestrations de pièces très connues et qu'il adapte à l'accordéon avec un autre instrument ou plusieurs autres instruments, en l'occurrence là, donc, avec la trompette. Et puis, il faut quand même rappeler qu'en 2007, il a remporté successivement les trois plus grands concours internationaux d'accordéon, un en Allemagne, un en Italie et un en Russie. Donc, c'est vraiment un musicien
non, c'est un virtuose
solide,
de l'accordéon,
grand,
oui, tout
grand
à fait.
Musicien. Et donc, ils vont tous les deux nous faire découvrir un programme très particulier et qui adapte, en quelque sorte, des pièces de Léonard Bernstein, Georges Bizet, Michel Legrand, Astor Piazzolla, Raphaël Mendes et même Édith Piaf. Et donc, on aura un florilège de pièces de ces grands auteurs transcrites pour trompette et accordéon par nos deux complices. Donc, c'est vraiment un concert très original auquel on va assister. Et donc, on se réjouit d'avance.
Oui, alors ce programme est effectivement assez éclectique tout de même. Bon, beaucoup d'arrangements, parce que des œuvres composées directement pour la trompette et l'accordéon, inutile de vous dire que c'est rare. Il y aura tout de même Fabien Waxman.
Oui. Alors,
je ne sais pas si on dit Waxman. Il y a une œuvre qui a été composée pour trompette et accordéon, donc je pense pour le duo en question,
oui.
The Perfect Match, et qui a été créé cette année.
Exactement. Hein, et d'ailleurs, c'est Perfect Match, c'est exactement le titre qu'ils ont voulu donner à tout le concert.
Voilà. Et donc, il y aura des œuvres de Cyril Lenne, compositeur aussi contemporain, d'après Georges Bizet, une fantaisie sur Carmen. Vous l'avez dit, donc des extraits de West Side Story de Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, Michel Legrand, ce sera Les Parapluies de Cherbourg. Il y a une romance de Raphaël Mendes, compositeur que je ne connais pas. Et donc, il y aura l'hymne à l'amour d'Édith Piaf.
Puisque c'est un concert consacré à l'amour. Et voilà, parlons d'amour. Disait-il.
Dans ce programme conçu par Lucienne Renaud-Navary et Félicien Brull, il y a donc des extraits de la bande originale de West Side Story, composée par Leonard Bernstein et arrangée ici par Thibaut Perrine, dont par exemple cet air particulièrement célèbre, Tonight. Tonight, extrait de la bande originale de West Side Story, composée par Leonard Bernstein et arrangée par Thibaut Perrine pour trompette et accordéon, et jouée donc par Lucienne Renaud-Davary et Félicien Bru, qui donnent le premier concert de la saison des Arts Renaissants, mardi 7 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a un autre concert ce même mardi 7 novembre proposé par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, nous allons y revenir. Mais avant cela, ce même Orchestre de Chambre de Toulouse est en concert dès cette semaine, et c'est un peu l'exception à la règle. Dans le cadre de ses programmes mensuels, l'OCT présente deux rendez-vous à l'escale de Tournefeuille. C'est jeudi 2 et vendredi 3 à 20h30. Les mêmes sont prévus également à Saint-Pierre-des-Cuisines les 13 et 14. Et le programme a un titre intrigant, pour ne pas dire étrange, émoticône, Serge.
Oui, et même émoticône, les passions au XXIe siècle. Alors, c'est très amusant, très imaginatif. On ne sait pas quelles sont les œuvres exactement, mais on connaît les compositeurs. Et à chacune des passions est affiché un compositeur. Ainsi, première des passions, l'admiration, puis il y a une couleur bleue.
Mais bah, bleu, c'est exactement. La couleur des émoticônes, je suppose.
Voilà, ce sera du Bach. Ensuite, c'est l'amour. Et là, l'amour, il est pink, donc rose, avec des œuvres de Fritz Kreisler et Felix Mendelssohn. Et puis ensuite, il y a la haine. Donc là, c'est du noir, hein, c'est black.
Oui, c'est la noirceur.
Mais... Et on aura du Paul Hindemith, avec ensuite le désir. Et là, évidemment, c'est rouge. Et ce sera du Carl Maria von Weber. Et puis la joie, elle est jaune. Et ce sera du Mozart. Et pour terminer, la tristesse, purple, donc
pourpre, oui.
Violet un peu.
Oui, pourpre.
Et ce sera du Haydn. Donc vraiment très original comme idée que de faire correspondre des œuvres, des sentiments, à des passions, à des impressions.
Et à ramener ça un peu à notre époque avec ces émoticônes, ça va parler à tout le monde.
Ah ben oui.
Vous avez remarqué qu'ils ont annoncé les compositeurs, mais on n'a pas les œuvres. Hein,
donc
ça sera une surprise. Hein. Alors, je l'ai dit, l'Orchestre de Chambre est très actif en ce début novembre, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, il se produit de nouveau à Toulouse, au Centre culturel Henri Desbal, mardi 7 novembre, oui. Où il y a deux concerts. Attention, c'est l'après-midi. Il y en a un à 14h et un à 15h15, avec un programme autour du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, Serge.
Oui, mais pas que. Il y a d'abord la suite Don Quichotte de Georg-Philippe Telemann, puis de Boccherini, La nuit de garde à Madrid, une œuvre relativement célèbre, relativement souvent jouée de Boccherini, puis trois concerts en sextuor de Jean-Philippe Rameau, et enfin le Carnaval des animaux, mais dans une version pour orchestre à cordes qui a été élaborée par Gilles Collière lui-même, qu'il avait déjà donné il y a bien des années.
Oui.
Donc c'est vraiment une transcription très, très bien faite.
Alors, ce sont ce qu'on pourrait appeler des œuvres à programme, qui racontent des histoires ou qui s'en inspirent, puisqu'il y a Don Quichotte,
oui.
La nuit de garde à Madrid, on peut imaginer des choses aussi, mm-hmm. Et puis évidemment, bon, le Carnaval des animaux, là c'est une suite de petites histoires qui arrivent à des animaux,
oui.
On peut rappeler lesquelles d'ailleurs, hein.
Alors,
vous savez, il y a l'éléphant, il y a le cygne.
Ah ben oui, le cygne, oui, absolument, c'est très amusant.
Il y a le poisson avec l'aquarium, il y a la volière. Donc là, c'est
peut-être l'aquarium qui est le plus souvent joué d'ailleurs.
Oui,
dans certaines séries même télévisées, on entend l'aquarium un peu.
L'aquarium, oui, effectivement, il y a ce côté mystérieux et scintillant.
Oui, voilà.
On l'entend beaucoup dans ce film magnifique de Terrence Malick, Les Moissons du Ciel. Beau programme, je pense, qui est assez familial. Alors, il y a ces horaires un peu surprenants, puisque c'est un mardi, ce ne sera plus les vacances, hein, c'est le mardi 7 novembre, à 14h et 15h15, donc au Centre culturel Henri Desbal. Donc le Carnaval des animaux est au centre de ce programme. Je propose qu'on en écoute un extrait dans la version pour cordes de Gilles Colliard, interprété bien sûr par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il s'agit du très beau, du très entraînant et du très enlevé final. Thank you. finale du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns dans la version pour cordes de Gilles Colliard, interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui est donc en concert le mardi 7 novembre à 14h et 15h15 au Centre culturel Henri Desbal. Il y a également au programme la suite Don Quichotte de Téléman, Nuit de garde à Madrid de Boccherini et trois concerts en sextuor de Jean-Philippe Rameau. L'Orchestre de Chambre de Toulouse est aussi en concert les jeudis 2 et vendredi 3 novembre à l'Escale de Tournefeuille, puis les lundis 13 et mardi 14 à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines pour donner son programme Émoticône. Ces quatre concerts commencent tous à 20h30 et la billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. Je rappelle d'autre part le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, lundi 6 novembre à 20h. Le programme est intitulé « Quintettes en miroir » avec des œuvres de Beethoven et Mozart. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Et je rappelle enfin, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, le concert d'ouverture de la saison 23-24 des Arts Renaissants. C'est le mardi 7 novembre à 20h avec le duo trompette-accordéon formé par Lucienne Renaud-Davary et Félicien Bru. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Merci beaucoup encore une fois à Serge Chosy qui m'a assisté très efficacement une fois de plus à l'animation de cette émission. Tous mes remerciements également à Christophe Aubry qui lui l'a réalisé. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de rester fidèles à notre écoute. Très bonne semaine musicale à tous.